que vous allez suivre est une rediffusion.
Autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, amis auditeurs, autour de la question des migrations internationales. Comment aborder cette question tragique et brûlante d'actualité, révélatrice des tensions majeures dans nos sociétés? Comment l'aborder avec le recul nécessaire? Au-delà des fantasmes et des idées reçues, comment la remettre en perspective dans le temps et dans l'espace? Autrement dit, comment étudier scientifiquement ces phénomènes migratoires dans toute leur diversité et dans toute leur complexité, sans manichéisme, sans peur, ni angélisme, sans manipulation, mais à l'épreuve des faits? Voilà ce sur quoi travaille activement et interdisciplinairement notre invité, le démographe François Héran, qui est aussi philosophe et anthropologue et qui vient d'être nommé titulaire de la nouvelle chaire Migration et Société au Collège de France. Autour de la question comment prendre en compte les phénomènes migratoires dans toute leur diversité, bienvenue pour mettre nos perceptions à l'épreuve du réel. Bonjour François Héran.
Bonjour.
Merci de nous aider à y voir un peu plus clair, à faire le tri entre les fantasmes et la réalité des phénomènes migratoires, de les mettre enfin à l'épreuve des faits. Vous êtes démographe, François Héran, directeur de recherche à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, que vous avez dirigé pendant plus de 10 ans. Vous êtes également philosophe et anthropologue, un parcours extrêmement riche et varié qui vous permet d'aborder la question migratoire dans tous ses aspects démographiques, sociologiques, économiques et philosophiques, anthropologiques. Également, vous venez d'être nommé professeur titulaire au Collège de France de la nouvelle chaire Société et Migration, et vous êtes également à l'origine du tout nouvel Institut des Migrations dont vous venez de prendre la direction. Il y a urgence, selon vous, François Héran, à développer une approche interdisciplinaire sur ces questions brûlantes.
Oui, il y a urgence parce que, effectivement, comme vous l'avez souligné, la migration, par définition, est un phénomène qui a toute une série de dimensions. Bien sûr, géographique, économique, démographique, sociale, éthique. Enfin bon, on voit toutes ces dimensions-là. Beaucoup de chercheurs maintenant travaillent sur ce sujet de plus en plus. On a fait une étude bibliographique pour déposer notre projet sur d'Institut des migrations. On s'est aperçu que la bibliographie augmente vraiment d'année en année.
De plus en plus de jeunes
dans toutes les disciplines, ce qui n'était pas le cas il y a encore 15 ans. Et notre idée avec cet Institut des migrations, c'était de fédérer un peu toutes ces recherches qui sont en fait très dispersées. Il y a un très grand nombre de chercheurs qui ne demandent qu'à pouvoir travailler ensemble et à se frotter les uns les autres et justement à réunir plusieurs disciplines. Par exemple, il faut des juristes pour étudier la question migratoire et en même temps allier juristes et économistes ou démographes et historiens, c'est passionnant.
L'un de vos essais, l'un de vos derniers essais paru à la Découverte, François Héran, s'intitule « Avec l'immigration, mesurer, débattre, agir ». De quoi on manque aujourd'hui? De mesures et de mesures
dont
on prenne réellement compte?
On a beaucoup progressé dans le domaine des mesures. Il y a 20 ans, il y avait énormément de choses, enfin c'était très lacunaire. Les organisations internationales ont joué un grand rôle. Bien sûr, la division de la population des Nations Unies, il y a Eurostat, l'Office statistique de la communauté européenne, et puis l'OCDE qui a 3 ou 4 points forts comme l'éducation, mais aussi les migrations. Du coup, ces trois organismes sont à peu près nourris par les mêmes données et tentent de les harmoniser. Et puis il y a une dernière source qui est extrêmement intéressante, que j'exploite de plus en plus, c'est la matrice bilatérale de la Banque mondiale. C'est-à-dire qu'on prend tous les pays du monde, on regarde combien de migrants du pays A vivent, sont recensés dans le pays B, on fait ça à l'échelle de toute la planète, c'est un peu comme le commerce extérieur, comment faire pour que les importations des uns correspondent aux exportations des autres. Il y a tout un travail d'harmonisation pour essayer de restituer l'ensemble des échanges, l'ensemble des circulations de migrants à travers le monde. Et quand on fait ça, bon, ben, il y a parfois des modélisations à faire, des petites itérations pour boucher les trous. Mais c'est une base de données très très utilisée de plus en plus.
Ouais. Et quand on fait ça comme vous, François Héran, comme tous les chercheurs, vous essayez de rassembler qui travaillent sur le sujet, on en arrive à des données et à des constats qui ne sont pas du tout ceux qu'on entend de la part de nos politiques ou dans l'actualité.
Voilà. Alors, un très bel exemple, quand on utilise cette base de données et qu'on essaie de classer les pays en fonction de leur revenu national brut ou de l'indice de développement humain, où enfin, il y a toute une série d'indices, on s'aperçoit que les pays pauvres migrent très peu dans les pays de richesse moyenne ou dans les pays riches. Les pays pauvres sont trop pauvres pour migrer. Alors ça, c'est tout à fait contraire à l'idée habituelle qu'on en a, parce qu'on a le sentiment que c'est la misère du monde qui migre. Le président Macron a encore cité cette phrase au détour d'une interview.
Et on ne peut pas accueillir, on le sait bien.
Voilà, hein, avec l'idée que si on ouvrait un peu trop les portes, toute la misère du monde s'inviterait chez nous. Non, on voit très bien à travers ces bases de données planétaires qu'en réalité, les pays les plus pauvres migrent beaucoup moins, n'est-ce pas ? Et en fait, les pays riches migrent beaucoup d'un pays riche à l'autre.
Donc grands phénomènes de migration aujourd'hui, alors qu'on parle de crise migratoire et qu'il y a aussi des grosses vagues migratoires, ne sont pas seulement sud vers le nord ou pas principalement
Si vous prenez par exemple le Mexique vers les États-Unis, qui est de loin le plus grand couloir migratoire au monde actuellement, puisque en gros 12 millions de Mexicains vivent de façon permanente aux États-Unis. Bah, le Mexique est un pays qui ne compte pas parmi les plus pauvres de la planète. C'est un pays qui est moyen moins ou moyen plus, enfin il y a toute une classification des Nations Unies. Et donc une migration un peu de proche en proche, bien sûr, qui se fait. De la même façon, les Chinois ne sont pas c'est pas le pays le plus pauvre de la planète et ils peuvent émigrer. Ça n'est pas les plus pauvres des plus pauvres qui migrent. D'ailleurs, il faut signaler que quand on prononce cette phrase, souvent, notamment le Parti Socialiste autrefois vous rappelait que Michel Rocard avait également dit « mais la France doit en prendre sa part ». Le problème, c'est que Michel Rocard a ajouté cette seconde partie de la phrase 7 ans après avoir prononcé la première dans une tribune du Monde, qui était quand même un repentir un peu tardif. Cette phrase a fait beaucoup de mal, parce que faire toute une démonstration à partir de l'analyse des flux migratoires issus des travaux de compilation de la Banque mondiale, c'est un petit peu compliqué à expliquer, alors qu'une phrase en forme de proverbe, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, ça se dit en un quart de seconde, ça frappe les esprits et c'est très difficile à remonter. Alors tout le travail du chercheur, c'est de montrer que le bon sens n'est pas toujours le meilleur guide ou l'évidence n'est pas toujours le meilleur guide dans cette affaire.
C'est autour de cette question donc que vous venez d'être nommé professeur au Collège de France, titulaire, et on va le comprendre, de la nouvelle chaire Migration et Société. Migration et Société, les deux termes sont importants. Je propose d'écouter l'administrateur du Collège, le professeur Alain Prochian, dans son introduction à votre leçon inaugurale. C'était le 5 avril dernier au Collège de France.
Ce qui apparaît comme absolument nécessaire aujourd'hui, au-delà des mobilisations politiques ou humanitaires, est une approche scientifique qui établisse des faits à partir desquels on puisse raisonner sur un phénomène complexe, loin des fantasmes, qui, né de l'ignorance ou de la mauvaise foi, donne lieu à toutes les possibilités de manipulation idéologique. Le phénomène migratoire n'est pas nouveau, et son amplitude, comme les formes qu'il prend, peuvent varier selon les époques et selon les régions du monde. Mais les replis inhospitaliers ne sont de l'intérêt ni de ceux qui se déplacent, ni de ceux qui reçoivent, sans oublier que celui qui reçoit aujourd'hui est parfois l'accueilli d'hier, et que nul ne peut croire sa sédentarité garantie pour toujours, pour autant qu'il la désire. On le saisit alors facilement, analyser ces phénomènes permet de comprendre ce que nous sommes et nous préparer à ce qui vient. Cela est urgent et exige un savoir multiple. Le Collège de France est donc heureux d'accueillir ce soir un philosophe, un anthropologue et un démographe, un pratiquant de 3 disciplines essentielles à la maîtrise intellectuelle d'un phénomène qui, depuis que Sapiens a quitté l'Afrique, est constitutif de l'aventure humaine. Chers collègues, je vous souhaite la bienvenue au Collège de France.
François Héran, Alain Prochian le rappelait dans son introduction, l'espèce humaine est par essence une espèce migrante et migratoire.
Je suis très ému par cet extrait parce que le professeur Prochian avait préparé son introduction sans du tout me consulter. Hein. C'était vraiment ça.
On n'en a pris qu'un extrait. Hein.
Oui, c'était vraiment sa propre... Le discours n'était pas très long, mais c'était sa propre réflexion qui nous a fait partager. Et, bon, qui évidemment tout à fait en phase avec mon travail. Alors, bien sûr, Homo sapiens a toujours bougé, c'est clair, mais entre-temps, l'histoire a avancé, les États souverains se sont installés, les frontières se sont multipliées, elles se sont encore multipliées d'ailleurs avec la décomposition du bloc soviétique qui a allongé les frontières. Il y a des géographes qui additionnent les longueurs des frontières pour dresser un bilan. Il y a eu plus de frontières.
De plus en plus de frontières. Hein.
Voilà, donc, alors, on ne peut pas revenir en arrière là-dessus. Je ne conteste pas, moi, la souveraineté des États, hein. D'autant que les États contribuent souvent à mettre en œuvre les droits, y compris les droits internationaux. En France, c'est quand même des institutions comme le Conseil d'État, le juge des libertés, c'est le Conseil constitutionnel, etc. Ce sont les associations qui opèrent dans un cadre national aussi, qui mettent en œuvre les droits dont profitent les migrants. Parce qu'au fond, nous vivons actuellement dans une période où la grande majorité des migrants qui s'installent en France, mais également en Europe, le font au titre des droits. Ils viennent parce qu'ils en ont le droit. Alors, ça ne dépend pas d'une politique économique, très peu. C'était le cas autrefois, dans les années 60, au début des années 70, quand on entrait en récession économique, on renvoyait les migrants, et puis parfois même on ne les recrutait pas pendant les vacances, on les réembauchait à la rentrée. Tout ceci s'est fini, et depuis 73-74, depuis qu'on a suspendu, arrêté, interdit en fait, l'immigration de travail, eh bien, il n'y a plus de connexion directe entre la situation économique et les flux migratoires, parce que c'est la logique des droits qui prévaut désormais, et non plus tellement la logique économique. Alors ça, les hommes politiques ont beaucoup de mal à l'admettre, et régulièrement dans leur programme, ils nous disent « Ah, il nous faudrait ajuster strictement l'immigration à nos besoins économiques. » Mais ça fait très longtemps que ce découplage est fait.
Ce n'est plus comme ça que ça se passe. Et vous parlez, vous faites aussi la distinction entre migration ordinaire, si j'ose dire, et migration extraordinaire.
Oui, alors c'est une... je pense que c'est un usage un peu commode, un peu simplificateur, mais qui est utile. Les migrations ordinaires, c'est effectivement celles que... ce sont par exemple les 200 000 maintenant, 260 000 titres de séjour que nous accordons chaque année à des migrants non européens, au titre des droits, le droit d'épouser qui l'on veut, de faire venir son conjoint, le droit d'avoir une vie de famille normale et donc de faire venir le reste de sa famille qui elle-même a le droit de travailler. Il y a aussi... bien sûr, le droit d'asile, mais pour une part relativement faible en France, j'y reviendrai. Et puis, il y a aussi cette espèce de... Alors ça, c'est assez intéressant. C'est pas vraiment un droit, mais de facto, ça devient un droit. Le droit, il est très combattu, il est très raboté. Mais enfin, quand même, le droit de faire des études supérieures dans une université de qualité à l'étranger. Et là, les Africains, évidemment, sont victimes de...
Ont du mal à avoir des visas.
Ils ont du mal parce que d'un côté, Campus France dit, mais oui, c'est un très bon dossier, il n'y a pas de problème. Et de l'autre, l'ambassade, parce que ça se passe à ce niveau-là, dit, de facto, des espèces de quotas qui font que les visas ne sont pas accordés. Et donc, les universitaires africains souffrent beaucoup de cette tension entre... ils ont un bon dossier, mais ils ont de moins en moins de droits.
Est-ce qu'on pourrait dire que chez les décideurs aussi, chez les politiques aussi, il manque quoi ? Il manque le fait de revenir aux chiffres, ce que vous faites aussi, aux statistiques, de regarder ce qui se passe réellement. On est tous dans des idées reçues ou dans des perceptions fantasmées. On n'est pas dans la réalité.
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, je vais vous citer le cas du président Macron qui, à Ouagadougou, à un certain moment, a un dialogue avec un jeune étudiant qui dit, mais écoutez, il faudrait davantage de visas. Bon. Et le président Macron dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Votre avenir est ici, au Burkina. Pourquoi rêvez-vous d'aller en Europe ? Vous devriez réfléchir à votre avenir ici. C'est un peu comme si, si vous voulez, cet étudiant avait quand même gravi un peu tout l'escalier qui mène au paradis, parce que il avait réussi à se rapprocher du président, à lui parler, et voilà que Saint-Pierre lui dit non, si vous avez frappé à la mauvaise porte, il faut redégringoler tout l'escalier et rester chez vous. Le problème, c'est que quand vous discutez avec les responsables de France Campus, ils vous disent, enfin, ils reconnaissent implicitement, ils sont très respectueux, bien sûr, que tout ça est quand même très gênant, parce que si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer ? Ce sont les autres grands pays attracteurs d'étudiants
qui vont accueillir ces chercheurs brillants.
Ce sont les États-Unis, c'est l'Australie, c'est l'Allemagne, c'est la Grande-Bretagne, et aussi, et de plus en plus, des pays comme l'Arabie Saoudite et la Chine qui sont en train de faire un effort considérable pour essayer d'attirer les étudiants africains. Il y a l'agence Campus France développe des efforts considérables remarquable pour attirer les étudiants en France. On parle aussi beaucoup de la francophonie. Si on dissuade les universitaires africains de venir en France, alors que fait-on de la francophonie, une espèce de francophonie à distance? Tout ceci est quand même très contradictoire. Et en réalité, plutôt que de parler d'illusions face à la vérité, je crois que ce qui est très frappant dans les discours qu'a tenu Emmanuel Macron là, c'est le fait qu'il ne mesurait pas à quel point il y avait un marché international des du paradis universitaire, si j'ose dire, de ces guichets célestes. Et que c'est pas en réfléchissant tout seul dans notre coin sur est-ce qu'il faut avoir plus ou moins d'étudiants africains qu'on va résoudre le problème. On est dans un marché international et à ce moment-là, c'est les autres pays qui en profiteront. Je trouve que là, c'est un discours vraiment à courte vue que de renvoyer les étudiants africains chez eux. Alors, voilà. Alors, si ils avaient la possibilité d'avoir des visas qui leur permettent de circuler librement entre leur pays et la France, ils pourraient aller et venir.
Et être vraiment, pour le coup, des migrants, pas des immigrés, mais
oui,
des migrants.
Oui, et cette mobilité leur permettrait aussi de faire profiter le pays d'origine de leurs compétences et de leur savoir. Je pense que un autre argument utilisé par le président Macron, c'était, vous rendez compte, les familles françaises, qu'elles font des efforts pour financer des études à leurs enfants, et si elles voient que ce sont les Africains qui en profitent. Donc l'idée de la concurrence entre les étudiants africains et les étudiants français, alors que, enfin, à ce moment-là, les Américains vont cesser d'offrir, d'avoir un quart d'étudiants étrangers, un quart de nos doctorants sont étrangers en France.
Ne l'oublions pas. Voilà. Donc sur ces questions de migration, on peut dire comme Amadou et Mariam sur RFI que c'est la confusion.
C'est la confusion partout. C'est l'illusion partout. C'est la division surtout. La souris qui joue avec le chat qui joue avec le chien aussi avec le lion, on ne sait plus où donner la tête. La vérité s'est bien éloignée, le maçon a déjà pris sa place, la violence qui frappe tout le monde, on ne sait plus où donner la tête. Les hommes et les femmes ont démissionné, les enfants abandonnés dans les rues. Les mariés sont en train de divorcer, les familles aussi sont bien divisées. Personne ne veut écouter personne, on ne sait plus où donner la tête.
La confusion, Amadou et Mariam sur RFI, pour sortir de la confusion justement autour de la question des migrations et de la diversité des phénomènes migratoires, en compagnie du démographe, anthropologue et philosophe François Errant, titulaire de la nouvelle chaire Migration et Société au Collège de France. Suite une nouvelle question pour vous, soulevée par le sociologue Alain Ehrenberg, qui était récemment notre invité.
À partir du moment où la question migratoire devient aujourd'hui une question tout à fait structurelle de nos sociétés, comment est-ce qu'on peut avancer entre ceux qui disent « Ah oui, l'immigration c'est formidable, ça va nous permettre de nous développer » et ceux qui sont dans la crainte totale de l'envahissement ? Est-ce qu'il y a des voies argumentatives permettant de faire évoluer l'opinion sur le sujet ?
Votre réponse, François Errant, comment faire en gros, hein, c'est ce que vous demande Alain Ehrenberg, pour sortir du manichéisme, de l'angélisme ou du fantasme du grand remplacement?
Je disais dans ma leçon qu'effectivement, on ne résoudra pas toutes ces tensions qui sont effectivement saisissante en poussant le curseur unilatéralement d'un côté ou de l'autre, et que on doit manier plusieurs curseurs. Et en même temps, je disais que outre les curseurs, il y a quand même des cliquets, c'est-à-dire par exemple les droits fondamentaux doivent être respectés. Les cliquets, c'est ce qui empêche de régresser, c'est ce qui empêche de tomber en arrière, c'est ce qui fait qu'un ascenseur ne tombe pas, par exemple.
Et les droits fondamentaux
sont quand même menacés, parce qu'à force de progresser dans les conditions minimales pour avoir accès aux droits, bon, alors ça, les juristes le disent, eh bien, il ne suffit pas de proclamer des droits, il faut que l'accès aux droits, le droit au droit, comme on dit parfois, soit effectif. Et là, on a beaucoup de problèmes, puisque bon, le droit d'asile en a une illustration simple. En principe, après la Convention de Genève, une personne qui se présente à la frontière, même sans papier, a le droit de déposer une demande d'asile. Et c'est ce droit qui est de plus en plus dénié. Et donc, c'est très difficile de mesurer combien il y a de demandeurs d'asile en France, parce que tout est fait pour empêcher les personnes de déposer une demande.
Donc on a du mal même à établir, vous qui dites qu'il faut se baser sur les chiffres, sur les faits, on a du mal finalement à établir des statistiques.
Alors, on sait au total, c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux, pour avoir une claire mesure de la situation, par exemple en Europe, et de la position qu'occupe la France par rapport aux pays voisins, il faut partir du résultat final. Au total, combien de décisions positives la France a-t-elle prises vis-à-vis des demandeurs d'asile, en additionnant une décision de première instance et les décisions de seconde instance, c'est-à-dire l'Office français des réfugiés et des apatrides d'une part, et la Cour nationale du droit d'asile qui traite des recours. Et puis, en additionnant aussi, parce que nous avons la Convention de Genève d'un côté, mais aussi une protection subsidiaire qui est moins permanente que les réfugiés de la Convention de Genève. Et en principe, si la situation se rétablit dans le pays d'origine, le bénéficiaire de la protection subsidiaire n'a plus le droit de rester. Enfin, additionnons toutes les protections, toutes les instances.
Et alors,
à ce moment-là, l'Allemagne, si je commence par 2016 et puis j'arriverai à 2017, l'Allemagne en 2016 a traité 750 000 dossiers, hein, ce qui est considérable, et accorder des décisions positives à 450 000 à peu près de ces personnes, donc plus de la moitié. Mais la France est très très loin derrière.
Combien pour la France,
C'était en quelque chose comme 85 000, quelque chose comme ça. Ça a dépassé 100 000 demandes, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas raisonner comme ça. Effectivement, nous sommes en seconde position, très loin derrière l'Allemagne.
Très loin derrière.
Par le nombre de dossiers traités, et nous sommes au quatrième ou cinquième rang par le nombre de décisions positives. Et alors, quand les hommes politiques font des déclarations à ce propos, et c'est traité le cas de Emmanuel Macron au mini-sommet de Bruxelles qui se tenait donc le 24 juin, il a déclaré, mais en réplique aux attaques italiennes, mais la France est le deuxième pays d'accueil des demandeurs d'asile en Europe. Eh bien non, il faut raisonner en proportion de la population, ou comme disent les économistes, per capita.
En proportion de la population,
oui. Par rapport, pour un million d'habitants, combien de décisions positives avons-nous prises pour les demandeurs d'asile? Eh bien, le pays qui venait en tête en 2016, c'était la Suède, avec 7000 demandes. Nous étions aux alentours de 500 et quelques. L'Allemagne, c'était 6000, etc. Donc, nous étions en 2016 en 16e position par rapport aux pays européens pour ce chiffre, n'est-ce pas, le chiffre relatif des protections accordées aux demandeurs d'asile. En 2017, car on a les chiffres depuis quelques semaines, ça a un petit peu progressé. Nous ne sommes plus en 16e position, mais en 13e position. Nous sommes à peu près au même niveau que l'Italie, donc toute la querelle pour savoir lequel des deux pays est le plus généreux est une querelle totalement absurde.
Mais comment se fait-il alors qu'il y ait une telle querelle et finalement qu'on y participe tous, parce qu'on est tous en train de se poser ce genre de questions?
D'abord, il y a une grande ignorance, je suis désolé d'avoir à le dire, de la part des hommes politiques, qui sont habitués à manier des chiffres absolus dans le débat public comme ça, mais qui n'ont jamais été véritablement formés à toutes ces questions-là. C'est pas très compliqué, il faudrait s'y mettre. Mais enfin, les chiffres que je donne, ce sont des chiffres qui viennent d'Eurostat. Ce sont les gouvernements européens eux-mêmes qui ont décidé qu'il fallait, tous les trimestres, avoir des données extrêmement précises sur toutes les demandes d'asile, la façon dont elles étaient traitées, les résultats qu'elles obtenaient. Donc, mais simplement, il faut rapporter ça aux chiffres de la population pour mesurer réellement le degré de, d'efficacité, de générosité du traitement de la demande d'asile. Donc nous sommes, selon les années, au 16e ou au 13e rang. C'est quand même pas très glorieux, c'est le moins qu'on puisse dire, pour le pays des droits de l'homme. Alors bien sûr, il y a des pays qui font pire que nous. La Grande-Bretagne, c'est à peu près deux fois moins. Elle profite des règlements de Dublin. Les règlements de Dublin, enfin, beaucoup de voix s'élèvent contre les règlements de Dublin, mais pour une raison très objective, c'est que ces règlements qui obligent les pays où les migrants ont été enregistrés pour la première fois à traiter ces dossiers font que désormais, dans le palmarès que je suis en train de vous évoquer, dans au tout premier rang, derrière la Suède, l'Autriche, l'Allemagne, etc., vous avez Malte et Chypre, parce que ces pauvres pays ont le malheur de se trouver en première ligne.
Et voilà. Le premier pas.
Et tandis que l'Angleterre, qui est très loin du théâtre des opérations, en profite pour accorder le moins possible. Et la France est assez loin aussi, profite aussi du règlement de Dublin. Donc ces règlements creusent les écarts entre les pays européens, alors qu'en principe, un règlement européen devrait avoir pour fonction de rassembler, d'homogénéiser l'espace européen.
Au fond, il faudrait tout revoir. On vous suit, hein, François Errand, autour de la question comment justement prendre en compte absolument tout, toutes les dimensions de la question des migrations, notamment devant le spectacle tragique auquel nous assistons tous en Méditerranée. En ce moment, le destin tragique de tous ces migrants qui se noient, naufrage en Méditerranée. Je propose d'écouter le rappeur sénégalais Xuma, rappeur engagé et créateur du journal Rappé.
Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a de bonnes, il y a de mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a de bonnes, il y a de mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Les morts ne se comptent plus par centaines, mais par milliers. Sur la route de l'immigration clandestine, on est familier avec ces images de corps sans vie vomis par l'océan. Autant de destin et d'espoir brisés en plein élan. L'arrivée en terre promise, c'est comme gagner au loto, mais il y a de l'eau dans le radeau qui mène vers l'Eldorado. À ce niveau, on n'est plus victime, on parle de statistiques. Chaque pirogue est un Titanic, c'est pas 10 000 ni 15 000, mais plus de 22 000 qui seraient morts dans ces pirogues depuis l'an 2000. Chaque année, en moyenne, il y a 1500 naufragés. Donc autant de familles ravagées. Les guerres et les crises sont les principaux alibis de tous ces migrants qui passent par le Maroc ou la Libye à la recherche d'une vie meilleure de l'autre côté de la rive. Mais la Méditerranée devient le tombeau de leurs rêves. Pour n'avoir pas su régler ses problèmes en amont,
ma gouvernance est pauvreté.
L'Afrique est coupable pour refus de trouver de plus durables solutions.
Richesse mal distribuée.
L'Europe est responsable. On a du mal à couper le cordon ombilical avec la mer nourricière, l'empire colonial. L'Afrique a faim, a soif et en quête d'idéal. Sous respiration artificielle, son économie va mal. Elle se laisse séduire par la pacotille venue d'Asie, vu que l'Europe favorise l'immigration choisie. Assise sur un magot, l'Afrique tend quand même la main. Yeah, son avenir reste incertain. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. L'Europe fait semblant de ne pas entendre nos prières. Comme dit Fatou Diom, on sera riches ensemble. Ou alors on va se noyer tous ensemble. C'était Krouman pour les haut-parleurs. À bon entendeur.
À bon entendeur, naufrage en Méditerranée sur RFI, le rap engagé de Mac Tarfal, alias Xuma sur RFI. Il est originaire de Côte d'Ivoire, créateur du journal Rappé au Sénégal. Ces mots et son parcours aussi nous rappellent que les migrations, elles peuvent être sud-sud, hein, sur le continent africain notamment, entre pays d'Afrique.
Oui, il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. Il y a une importante migration du sud vers le nord. Il y a une migration à peu près aussi importante entre les pays du sud. Et quand on découpe le monde en quelques grandes régions, permettant notamment d'isoler l'Afrique subsaharienne, l'Afrique subsaharienne, c'est à peu près 350 millions d'habitants, dont la moitié est composée par le Nigeria lui seul. Hein. Mais le Nigeria émigre très peu. Le Nigeria fait partie des géants de la planète, comme l'Indonésie, les Philippines, la Chine, l'Inde, etc. Et ces géants ont essentiellement une migration interne. Et ce sont des planètes tellement grosses qu'elles retiennent en quelque sorte leur population. La diaspora nigériane, c'est même pas 2% de la population du Nigeria. Mais c'est la même chose pour la Chine. La Chine n'a même pas 1,5% de ses ressortissants à l'étranger. Alors évidemment, dès qu'il y en a un petit peu, ça fait beaucoup, hein, donc on est frappé par l'importance des diasporas, mais c'est très peu par rapport à la population d'origine. Mais par contre, un pays comme par exemple le Burkina, là, c'est le plus gros couloir migratoire de pays en pays, qui n'est pas une migration interne, au sein de l'Afrique subsaharienne, de loin, ce sont les Burkinabés installés en Côte d'Ivoire. C'est 1,4 million, 1,5 million à peu près de Burkinabés qui sont installés en Côte d'Ivoire. Vous avez comme ça une circulation interne au sein de l'Afrique subsaharienne. On peut calculer, mais toujours grâce à la fameuse mise en cohérence des chiffres internationaux dans cette matrice bilatérale que j'évoquais en commençant, on sait qu'en gros, 77% des migrations qui vont internationales, qui vont de pays en pays de la part des subsahariens, eh bien, se font dans un autre pays de l'Afrique subsaharienne.
C'est ça, reste en Afrique. Voilà. Mais alors, ce qui alimente, hein, pour rester dans les idées reçues et dans les fantasmes, ce qui peut alimenter aussi nos fantasmes ici, hein, de ce côté-ci de la Méditerranée en Europe, c'est la question démographique. Vous êtes vous-même démographe, François Héran. À ce sujet, je vous propose une nouvelle question, soulevée par Dominique Kerouédan. Elle est experte en politique internationale de santé, après avoir été sur tous les terrains de la médecine humanitaire, professeure également au Collège de France. Elle a été titulaire de la chaire temporaire Savoir contre pauvreté. Écoutez sa question, elle est pour vous.
Bonjour François Héran, j'ai assisté à votre leçon inaugurale au Collège de France qui m'a passionnée. Je me demandais par rapport aux questions de croissance démographique en Afrique et de phénomènes migratoires qui pourraient y être associés dans les 2-3 décennies qui viennent, puisque la démographie africaine va être multipliée par 2 en 3 décennies. Comment vous pensez que des chercheurs en France puissent anticiper un petit peu les retombées de cette croissance, non seulement en termes de migration, mais aussi en termes de besoins alimentaires, en éducation, en santé?
Votre réponse, François Héran, comment anticiper justement?
D'abord, la démographie est une des rares disciplines qui a quand même les moyens d'anticiper assez largement sur quelques décennies. C'est un peu compliqué. Disons qu'en gros, le nombre de personnes âgées dans les décennies à venir, ça c'est relativement facile à projeter parce que ces personnes sont déjà nées. L'évolution de la fécondité dans les prochaines décennies, c'est déjà plus compliqué. On peut, pour les 20 prochaines années, savoir en gros ce que sera le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants, mais leur comportement de fécondité n'est pas si prédictible que ça. Et on a eu des surprises dans le passé.
Mouvant, c'est beaucoup plus mouvant.
Ah oui, il y a eu des évolutions beaucoup plus rapides que prévu. Le Maghreb a baissé sa fécondité à une vitesse absolument extraordinaire. Dans les années 70, on était aux alentours de 7 ou 8 enfants par femme. On est maintenant entre 2 et 3. Et ceci à une vitesse phénoménale. Ça, c'est fait surtout par le biais du recul de l'âge au mariage, qui au lieu de se faire à 15-16 ans pour les femmes, s'est fait plutôt presque à 30 ans. Donc ça passe par d'autres phénomènes. Projeter l'immigration, ça c'est très difficile. Les personnes ont la baguette magique pour prédire dans 30 ans, 40 ans, combien de migrants iront de tel pays à tel autre pays. C'est soumis à toutes sortes de conjonctures, de conflits, etc. Bon, alors, la question de ma collègue, c'est de savoir quelles conséquences on peut tirer quand même de cette explosion démographique, puisque c'est le terme un peu consacré. Oui, les projections des Nations Unies qui sont actualisées tous les 2 ans, et ça fait longtemps qu'on en parle, hein, va y avoir en gros l'Afrique subsaharienne, je dis bien subsaharienne, le Maghreb n'est pas compté là-dedans, l'Afrique australe non plus, va passer en gros de 900 millions de personnes à 2 milliards en l'espace de 50 ans. Maintenant, et ceci a été fait par notamment des chercheurs du FMI, ça a été encore refait récemment par une équipe italienne pour l'Union européenne, que se passe-t-il si on prend ces chiffres dans 50 ans et qu'on regarde un peu quelle est la répartition des migrations entre les migrations internes, les migrations d'un pays à l'autre au sein de l'Afrique subsaharienne et les migrations vraiment à l'extérieur de l'Afrique du Sahara. On peut faire des hypothèses, mais en gros, les subsahariens qui font 0,4% de la population des pays de l'OCDE actuellement, ça inclut...
Rappelons-le. Hein.
Oui, ça inclut les Nigériens aux États-Unis, par exemple, hein, dans ce chiffre.
Donc c'est extrêmement peu.
C'est très très peu pour l'instant. Alors, ce n'est pas les flux actuels, c'est les personnes qui résident, c'est un peu le résultat de toutes les décennies passées, 0,4% actuellement, et donc avec la projection, le doublement de la population subsaharienne, on va passer à 2,4%. 2,4%, ce n'est pas encore une invasion. Or, je rappelle que, par exemple, dans le livre de Stephen Smith, La ruée vers l'Europe, ce qui est dit, c'est qu'on risque d'avoir 40% de la population européenne qui serait composée d'Africains. Vous vous rendez compte l'éloignement qu'il y a entre une modélisation qui est, enfin, semble-t-il, tout à fait rationnelle et pensée. On peut dire que peut-être qu'il y aura plus de migration à l'extérieur de l'Afrique que maintenant et que les 2,4% projetés par le FMI, par l'Union européenne, seront peut-être 5%. Enfin, on est toujours très très loin des 40% fantasmés. L'idée que nous serons envahis par... Alors ça fait longtemps qu'il existe une démographie sensationnaliste, alarmiste, avec des tirages à succès. Bon,
Mais pourquoi justement c'est... Est-ce que c'est parce que c'est...
La démographie fait peur. Il y a un grand fantasme qui est l'envahissement par le nombre. Il y a aussi, peut-être que là ça rejoint un peu la psychologie, c'est que nous serons tous remplacés par les générations futures.
C'est un fait, hein. On est et on va mourir.
Il y a quelque chose un peu d'angoissant là-dedans. Et alors l'idée qu'on risque d'être remplacé en plus par l'autre, par des gens différents, etc., ajoute de l'angoisse à l'angoisse.
Finalement, on est peut-être une période angoissante, on a des peurs et on mettrait nos peurs sur ces questions-là, sans regarder les chiffres et la réalité. C'est quand même un peu ce que j'entends en vous entendant.
Ce qui est frappant, c'est qu'il y a dans les années 30, dans l'entre-guerre, la migration a très très fortement progressé en France. Elle a quasiment doublé. On a fait appel aux migrants après la Première Guerre mondiale pour réparer l'économie. Puis ensuite, on a eu des lois très libérales de naturalisation. On a fait appel aux Italiens, aux Polonais, etc., en nombre. Déjà à l'époque, alors que les effectifs étaient beaucoup plus faibles que maintenant, il y avait déjà à l'époque tout le mythe de l'invasion, de la perte d'identité. Il y a des textes, par exemple, de Céline, l'écrivain absolument extraordinaire, qui disent « mais il faut absolument qu'on mette des quotas à l'immigration comme ils existent aux États-Unis pour empêcher que toute cette... »
L'invasion, la grande invasion.
Et puis lui, il mélangeait tous les Juifs, les Noirs, tout ça, c'était un peu la même chose. Il y avait un complot international pour faire perdre l'identité, noyer l'identité de la France. Je retrouve dans les courriers que je reçois, dans les blogs que je lis, je retrouve beaucoup de ces fantasmes. Je ne compte plus le nombre de lettres qu'on m'adresse où on m'accuse d'être sciemment impliqué dans la volonté de vouloir livrer l'identité française à l'islam, à l'Afrique, etc. Ces fantasmes sont quand même très très présents. Je crois qu'il faut essayer de revenir aux faits, et les faits, c'est ce que j'ai invoqué. Ce ne sont pas les pays les plus pauvres qui migrent. L'Afrique subsaharienne migre d'abord en Afrique subsaharienne, ensuite évidemment toute une série d'autres problèmes à examiner, et notamment les problèmes évoqué par ma collègue. Oui, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes de logement, des problèmes de développement. C'est difficile de dire si la pression de la population peut favoriser un certain développement économique, c'était la thèse d'Esther Boserup, qui était plutôt populationniste, ou si au contraire c'est le développement de la démographie qui va entraver le développement économique. La relation entre croissance économique et croissance de la population est très très controversée. Ça fait au moins 2 ou 3 siècles qu'on en discute, je dirais depuis Malthus, et Malthus, c'est la fin du 18e, début du 19e. On a autant d'arguments pour dire que la croissance de la population stimule la croissance de l'économie que l'inverse.
Comment prendre en compte toute cette complexité, parce que finalement c'est ça, et la diversité de tous ces phénomènes migratoires, comment prendre en compte aussi l'humain, François Héran, celui qui n'a pas d'autre choix que de migrer, de prendre la route ou la mer pour avoir peut-être un avenir. On écoute Coldplay sur RFI avec ce morceau Alien, l'histoire d'une famille en détresse fuyant la guerre, morceau coécrit avec Brian Eno et dont les bénéfices sont reversés à l'ONG maltaise MOAS de sauvetage en Méditerranée. Alien sur RFI. le morceau signé Coldplay sur RFI. Autour de la question, comment prendre en compte les phénomènes migratoires dans toute leur diversité? Nous sommes en compagnie du démographe, anthropologue, philosophe et sociologue François Héran, titulaire au Collège de France de la nouvelle chaire Migration et Société. Migration et société, l'un ne va pas sans l'autre. Vous dites, François Héran, qu'il n'y a pas de société sans migration. Et les migrations modifient évidemment durablement les sociétés. L'un ne va pas sans l'autre, il y a une interaction entre les deux.
De toute façon, on ne peut pas étudier les migrations de façon purement technique, de façon purement démographique. C'est un sujet très compliqué. Il n'est pas facile de mettre en équation les migrations. Bien sûr, les migrations comptent dans l'équation démographique fondamentale. C'est-à-dire ce qui fait croître une population d'une année à l'autre, c'est la différence des naissances et des décès, et c'est la différence des entrées et des sorties. Les deux composantes, c'est ça. Mais la migration, c'est un phénomène à la fois économique, politique, social, etc. On l'a déjà dit. Et ça, c'est très difficile pour le démographe de le mettre en équation. Donc, il faut forcément aborder d'autres distinctions. Et puis, je dirais, il y a une approche qui est vraiment utilisée par de très nombreux chercheurs, qui est absolument fondamentale, c'est l'approche qualitative qui consiste à recueillir aussi le point de vue des migrants, l'expérience des migrants. Les migrants eux-mêmes savent très bien ce qui leur est arrivé, sont capables d'analyser avec profondeur et finesse leur propre expérience ou celle de leurs enfants. Ils ont des stratégies, ils ne sont pas simplement victimes. Il y a aussi toute une approche, je dirais, centrée sur la famille, sur les individus, sur la mécanique des décisions. Les économistes, par exemple, font maintenant des modèles tout à fait intéressants pour savoir comment, entre deux conjoints, la décision de migrer, de partir ou de rester peut être prise.
À propos d'économistes, justement, j'ai envie de vous faire partager une étude que vous avez dû voir passer, François Héran, une toute récente étude d'économistes du CNRS, publiée dans Science Advance, qui démontre donc, chiffres à l'appui, que l'arrivée des demandeurs d'asile n'entraîne pas, comme on le croit trop souvent, une dégradation de l'économie. Étude réalisée à partir d'une modélisation statistique dynamique, à partir de données dans 15 pays d'Europe de l'Ouest. Je propose d'écouter l'économiste Draman Koulibaly, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Nanterre, au laboratoire Economics, interrogé par Charlie Dubiot.
L'idée de cette étude, déjà, c'était de voir si, comme on en parle beaucoup dans la presse, c'est en disant, par exemple, qu'il y avoir un coût économique ou un coût fiscal de la migration, en général aussi des réfugiés. Nous avons essayé de voir si vraiment il y a un impact économique ou un impact fiscal de la migration et des réfugiés. Donc, on a récolté des données sur les 15 pays de l'Europe de l'Ouest, 1985 à 2015. Donc, après avoir eu les données, donc, on a essayé d'utiliser une méthode statistique qui est cette méthode généralement utilisée pour faire des prévisions macroéconomiques. C'est aussi utilisé pour regarder l'impact des politiques, notamment des politiques budgétaires, par exemple, qui, par sa forme dynamique, tient compte aussi de l'interaction entre les variables, permet de bien identifier où les chocs imprévisibles, c'est-à-dire qui ne sont pas liés à la conjoncture économique des pays d'accueil, qui entraîne l'augmentation de la migration et des demandeurs d'asile. La guerre dans les Balkans,
dans les années 90,
avec le printemps arabe et tout récemment le conflit en Syrie. Et après avoir identifié ces chocs, on peut calculer ou on peut évaluer l'impact de ces chocs sur les variables économiques ou les variables fiscales au cours du temps. On commence à observer l'impact positif à partir de quelques années, c'est-à-dire le moment où, généralement, quand ils deviennent des migrants permanents. Les réfugiés, quand ils deviennent des migrants permanents, commencent à avoir un impact positif sur l'activité économique et sur les finances publiques. À partir de 4 ans, observons, nous observons qu'au début, il n'y a pas d'effet. Mais c'est à partir de quelques années, il commence à avoir un impact positif, c'est-à-dire qu'ils arrivent à contribuer positivement aux finances publiques. Et ça veut dire quoi? Ça entraîne une augmentation du PIB par habitant, donc ça entraîne une baisse du taux de chômage et ça entraîne une amélioration du solde budgétaire.
Et comment on le voit ça en fait, cet impact positif?
On compare l'impact des flux de demandeurs d'asile sur les recettes collectées par l'État. Et on compare l'impact sur les dépenses ou les transferts effectués, les transferts nets effectués.
De l'État, en fait, des dépenses sociales de l'État. Voilà.
On voit que l'impact sur les recettes générées l'emporte sur l'impact sur les dépenses générées.
Les migrations, les demandeurs d'asile ne sont donc pas un fardeau pour les économies européennes. Vous voulez réagir à cette étude et à ces propos du chercheur Draman Koulibaly du CNRS, François Héran?
Mais écoutez, il utilise des statistiques maintenant tout à fait éprouvées. D'abord, il faut suivre les données dans le temps, il faut comparer l'avant et l'après, pour qu'il y ait des techniques spéciales pour mesurer l'impact d'un choc. Il faut vérifier qu'entre-temps, il n'y a pas d'autres raisons qui pourraient expliquer les différences. Donc il faut neutraliser, il faut contrôler un certain nombre de variables externes. C'est un travail assez subtil, mais enfin qui est maintenant la norme absolument internationale pour mesurer l'impact d'un choc. Ce qui est intéressant, c'est que son travail se situe tout à fait dans la lignée de l'immense majorité des économistes. Il y a un petit livre formidable que je recommande, qui est tout à fait lisible, de Hillel Rapoport, R-A-P-O-P-O-R-T, qui est le responsable, chef du département de l'Institut des migrations dont je m'occupe, et qui vient de publier dans la petite collection du CEPREMAP un petit livre très didactique sur justement la migration vue du point de vue économique, un point de vue économique sur les migrations. Il passe en revue toute une série d'études sur l'impact des migrations, notamment des migrations massives et soudaines. La première grande étude qui a été faite, c'était l'impact de l'arrivée soudaine des Cubains qui avaient été libérés par Castro pendant quelques semaines, n'est-ce pas? On a étudié aussi l'impact du quasi-million de rapatriés que la France a accueillis en 1962 de façon tout à fait inopinée. Et voilà, on prend toute une série d'exemples historiques comme ça. Et évidemment, les dernières arrivées de migrants permettent d'actualiser toutes ces expériences, et à chaque fois. Et certes, il y a d'abord un coût d'accueil évident. Au bout d'un certain temps, l'État profite de ces arrivées. Ça dilate la taille de l'économie. On a affaire à des gens qui appartiennent à la tranche d'âge où il y a le plus de cotisants, parce qu'évidemment, tout ceci, ça doit tenir compte du cycle de vie. Quand vous êtes jeune, vous coûtez à la collectivité. Quand vous êtes d'âge intermédiaire, actif, eh bien, vous rapportez. Puis quand vous êtes âgé, oui, vous coûtez de nouveau. Bon, ben, ce qui se passe là dans le cycle de vie, ça vaut pour les migrants, ça vaut pour nous tous, ça vaut pour les non-migrants. Et les différences qu'on observe un petit peu dans le rendement pour l'État ou le coût pour l'État de la présence des migrants, c'est essentiellement dû aux petites variations de la structure par âge et guère plus.
Et j'ai envie de vous demander, François Héran, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, comment se fait-il que vous ne soyez pas plus entendu? Alors, vous avez réussi à avoir les fonds pour créer cet institut interdisciplinaire des migrations qui rassemble plus de 200 chercheurs dans tous les domaines. Mais comment se fait-il que justement vous ne soyez pas plus entendu? Est-ce qu'on a un problème avec l'urgence aujourd'hui de certaines vagues migratoires? Est-ce qu'on est paralysé entre face à la tragédie où on peut faire... est-ce qu'on est complètement paralysé? Est-ce qu'on ne sait pas comment faire? Est-ce qu'il y aurait moyen d'eux? Quelles pourraient être vos pistes en quelques mots, François?
Alors, je ne suis pas très bien placé pour diagnostiquer ma capacité à me faire entendre ou pas. Je pense qu'elle va progresser grâce à la tribune du Collège de France. Je pense aussi, et c'est quelque chose d'important, que l'Institut des migrations que nous avons remporté dans un concours difficile en compétition avec toutes les autres disciplines, les sciences de la vie, les sciences de l'ingénieur, etc., qui a effectivement affilié 280 chercheurs et qui est en pleine constitution. Nous avons à l'intérieur de ce projet un budget spécial justement pour la communication. Nous allons essayer de faire un suivi critique de l'actualité avec l'aide de journalistes professionnels, avec l'aide de jeunes chercheurs qui sont extrêmement préoccupés par cette question-là. Pourquoi ne sommes-nous pas davantage entendus? Pourquoi l'expertise est-elle... Et vous savez, les gouvernements, ils prétendent déjà tout savoir sur le sujet, hein, jusqu'au sommet de l'État. Et essayer de faire comprendre de façon aussi claire que possible pourquoi nos recherches, nos données, nos analyses, nos arguments méritent d'être entendus. Donc j'espère que la situation d'ici quelques mois et sans doute d'ici quelques années, aura bien évolué de ce point de vue-là.
On l'espère tous avec vous. Merci infiniment, François Héran, malgré un emploi du temps chargé, on s'en doute, d'être venu partager toutes ces pistes de recherche et toutes ces interrogations sur une nécessaire approche interdisciplinaire des phénomènes migratoires. Et puis je rappelle aussi le titre de votre dernier essai, Avec les migrations, mesurer, débattre, agir, aux éditions de la Découverte. Merci François Héran.